sais. Merci de m'avoir accueilli à la table, au repas du Seigneur aussi, à partager cette bénédiction. Quelques nouvelles du ministère. Alors, bien, une autre année, je m'engage avec l'église locale à Saint-Georges-de-Beauce. Ils m'ont demandé ce que M. Joly allait faire en 2025. Ben, je lui ai dit, pourquoi pas de continuer à faire ce que je fais présentement, malgré que les années s'accumulent, hein? Vous aussi, vous avez une année à la fois. Chaque année, on a une année, hein? De grâce que le Seigneur nous accorde, hein? On l'accumule dans nos années aussi, on les accumule. Alors, je devais être avec mon épouse, puis avec ma fille, puis mon gendre, mais changement de programme, changement de programme. Il réfléchissait à cette possibilité. Et là, vous en connaissez la conclusion, hein? Résultat de cette réflexion. Alors, prions pour ma Danielle. Elle n'a pas une santé forte, hein, vous la connaissez. Alors là, on ne sait pas trop c'est quoi. Elle a des douleurs qui viennent et qui partent là, dans un côté. Ça ne va pas jusque dans la jambe. Fait que tantôt elle est bien, tantôt elle a la douleur. Fait que prions pour cela. Hein. Et puis ma fille a fait des 10 jours en ligne à l'hôpital à Saint-Georges. Elle est préposée. Alors, à l'hôpital, puis quand elle rentre à la maison, elle prend soin de sa maman et de son papa lorsque lui est à la maison. Mais il est encore sa trotte, lui. Il est toujours parti, hein? Il court après des âmes perdues, puis il y en a-t-il des âmes perdues, hein? Alors, bien là, il s'en accumule encore parce qu'il en rentre beaucoup dans notre bâtiment. Alors, ça me fait des visites à faire. Heureusement qu'on a une belle équipe. Et puis là, vous m'en rajoutez parce que vous m'avez dit qu'il y a une dame près de madame, son nom c'est l'anglais, hein, c'est ça? Son nom de famille, elle arrive de Clorida, mais elle n'arrive pas. Elle est à Saint-Georges-de-Beauce, mais il paraîtrait qu'elle a fait profession de foi. C'est une dame, donc, de l'Assemblée qui était, elle n'est pas à l'Assemblée, mais sa sœur Lucie. Bon, toutes vous démêlez ça, vous allez voir, ça ne sera pas long. Madame Lucie, alors c'est sa sœur qui aurait fait profession de foi lors du décès des funérailles de Denis, ça c'était le mari de Lucie. La chance à Chloridorme, que j'ai connue bien, parce que j'étais missionnaire en Gaspésie dans les années 80. Et puis, on m'a dit que le ferrailleur qui passe ici, là, l'ancien commerce de notre frère, ici Nelson, là, qui aurait une ouverture à l'Évangile. Fait que j'en ai encore deux à aller visiter à Saint-Georges. Fait que priez pour cela. Le ministère est toujours présent, toujours là, en train de partager l'Évangile. Alors, priez pour la famille, et puis priez pour... Donc, le ministère, les ministères, crois-tu, parce que maintenant, on peut parler des ministères, il n'y a pas seulement l'émission de télé, mais il y a de la littérature. Et puis, on a notre site Internet aussi. Eh bien, depuis le mois de juin, les écoutes de ces émissions-là, vous savez c'est quoi la formule, ce sont des témoignages. Témoignages de conversion et de vécu avec la personne de Jésus-Christ par la foi. Alors, ils ont fait ça depuis le mois de juin, la cote d'écoute, elle a monté. Elle nous a très surpris, cette cote d'écoute-là. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un intérêt, ce qui veut dire qu'il se passe de quoi dans la population au Québec et dans la francophonie, et que de plus en plus de gens écoutent les témoignages qui sont aussi bien sur le site accroitu.ca qu'aux émissions qui sont télédiffusées sur Télémag, et ainsi de suite. Et ça, ça a commencé quand, ça, ces émissions, crois-tu? En pleine pandémie, hein? Lorsqu'on était enfermé chez nous entre nos quatre murs, et puis ça fait 4 ans maintenant, et ça continue. Le Seigneur est bon, hein? Il est grand, hein? Il veut se faire connaître, puis pas à peu près. Hein? Il utilise encore ses serviteurs qui sont là, prêts à moissonner dans le champ du moissonneur. Et je prie pour votre champ de mission, votre champ de la moisson, hein? La Beauce, Sainte-Marie de Beauce. Alors j'entends des échos des fois de temps à autre, là, que prions pour ces âmes qui ont besoin, tous besoin du Seigneur Jésus-Christ. On le sait, on le connaît assez, hein, ce besoin. On a besoin, donc, de connaître Jésus-Christ comme sauveur. Puis, ceux qui le connaissent, de mieux le connaître, afin de mieux le servir, puis de se préparer pour la venue. Il revient bientôt, le Seigneur. Hein? Alors, nous sommes prêts à l'accueillir, à le recevoir. On l'a déjà reçu dans notre cœur comme sauveur, mais là, celui qui va venir nous chercher pour nous accueillir dans cette place qui est en train de nous préparer. Je m'en vais vous préparer une place. L'Évangile de Jean est très précieux. Pour moi, c'est l'Évangile qui m'a conduit à connaître Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Et depuis quelques jours, on va dire presque un mois, tout le mois de novembre est réservé à l'étude de l'Évangile selon Jean à l'église locale à Saint-Georges. On a préparé des cahiers, l'équipe pastorale, et puis nos prédications sont sur l'Évangile de Jean, nos rencontres de prière sont sur des textes de l'Évangile de Jean. Alors, pendant un mois, tout le mois de novembre est alloué à l'Évangile selon Jean. Et puis, moi, je dois apporter un message au début de décembre qui sera une genre de conclusion à tout cela. Et cette conclusion n'est nulle autre que le texte dans Jean 20, versets 30 et 31. Alors, vous avez une primeur, vous, ce matin. Vous avez un texte qui va être prêché. Alors, dans quelques semaines, à Saint-Georges, vous aimez ça, les primeurs? Moi, quand j'étais journaliste, puis nouvelliste surtout, je cherchais les primeurs, avant que tout le monde l'annonce. J'ai dit, si je peux l'annoncer avant que tout le monde le sache, je vais être le premier, Alors, c'est ça qu'on cherche, Alors, vous connaissez des primeurs de l'Évangile? Hey, imagine quand Corneille est allé, première fois, il entend l'Évangile, ce gars-là, avec toute sa famille. Une première, chez les non-juifs, là. Une famille complète qui se convertit. C'était ça, les années 70, ici, au Québec, On rentrait dans une famille, on parlait à une personne qui était intéressée, puis on voyait la famille se convertir dans les années 70-80, Là, c'est plus clairsemé aujourd'hui, mais le Seigneur a dit quoi? Jusqu'à la fin, on est là, des moissonneurs, on est en train de semer, de moissonner. Alors, vous avez trouvé ça dans Jean chapitre 20? Alors, c'est la conclusion de l'Évangile que nous sommes, on est en train de regarder, mais que vous avez lu certainement, vous aussi, et relu maintes et maintes fois depuis que vous êtes au Seigneur. Et dans chapitre 20, versets 30 et 31, c'est l'objectif, c'est le but, c'est le pourquoi que cet écrit existe. Donc, Jean, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples, » vous voyez ça dans Jean 20, 30, « beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Alors, il en a choisi 7, entre autres, l'apôtre Jean, dirigé par l'Esprit-Saint, afin d'atteindre le but. Et le but, c'est le verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et ça, c'est le but. Alors, donc, quand les gens me disent, qu'est-ce qu'on doit lire en premier? Lisez l'Évangile de Jean et atteignez le pourquoi que ce livre a été écrit. Afin que vous ayez la vie en Jésus-Christ. C'est le pourquoi, cet écrit existe, c'est afin de vous conduire à Christ et que vous ayez la vie en son nom. C'est le but. Alors, si les lecteurs pouvaient atteindre l'objectif de l'écrit, ça serait formidable, tous les lecteurs de l'Évangile de Jean. Et comment est-ce qu'il s'est pris, Jean, inspiré par l'Esprit-Saint? Bien, il a utilisé des miracles, des témoins, et puis c'est ce qu'on voit dans l'écrit. Il fait parler des gens, il a été témoin lui-même aussi de certains événements, de certains faits. Et puis voilà, dans le but, que les gens connaissent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur et qu'ils aient la vie. Alors donc, Jean ne veut pas qu'on perde de vue la raison pour laquelle il a écrit cet Évangile. De regarder à Jésus et de pouvoir vivre tout ce qui en découle. Croire et vivre en Jésus. Merci encore pour la table du Seigneur. On ne veut pas perdre de vue la raison pour notre célébration à tous les dimanches matins, c'est de regarder à Jésus. Ces symboles nous font regarder à Jésus, le pain et le fruit de la vigne. Alors donc, croire, accepter et vivre pleinement et s'en rappeler. Alors, Jean présente donc Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Dieu fait chair. C'est comme ça que l'Évangile commence. Évangile qui veut dire « bonne nouvelle aujourd'hui ». Alors, il dit « voici celui que j'ai connu, voici celui que j'ai touché, voici celui que j'ai suivi pendant toutes ces années. C'est le Fils de Dieu ». Alors donc, tous ces signes que nous allons voir ce matin, on va essayer d'en voir 4 signes entre autres. 4 signes que l'évangéliste Jean a laissés dans son écrit afin de nous conduire à Jésus-Christ. Vous êtes prêts à vivre cette expérience-là, puis à vivre cette vérité-là? Alors, c'est ce que nous allons voir. Donc, ces signes sont comme des panneaux signalisateurs. Quand vous êtes sur le chemin, là, avec votre auto, là, vous regardez où est-ce que vous allez, dans quelle direction. Ça ne veut pas dire parce que c'est écrit Montréal que vous êtes rendu à Montréal. Vous regardez en bas, il dit, il y a encore des centaines de kilomètres à faire. quand vous partez, comme ça, sur la 73 puis sur la 20, direction Montréal. Alors, mais c'est là pour vous dire, hey, on est dans la bonne direction, on y va, on s'en va à Montréal. Si vous voulez aller en Gaspésie, bien, tournez de bord, repentez-vous, puis changez de côté. Hein? Mais si vous voulez aller à Montréal, ça va bien, les panneaux sont là, puis Montréal, Montréal, puis il y a de moins en moins, alors on s'approche. La distance, on le parlait, là, hey, là, là, on est quasiment rendu, ça sent Montréal, hein? Est-ce que ça sent le chrétien, vous, quand vous êtes sur votre chemin? Hein? Êtes-vous en train de vous rapprocher, là, de ce que le Seigneur est? Alors, donc, regardons ça ensemble, donc, ces mots que le Seigneur utilise ici par la bouche ou les cris de Jean, la main de Jean. Alors, le premier signe se trouve à Cana. Donc, c'est Jean chapitre 2. Alors, sept signes, c'est sept miracles, donc ces panneaux de signalisation qui nous disent « Arrêtez-vous pas là, là! Arrêtez-vous pas là! Vous n'êtes pas encore rendus, mais ça va venir! » Décourageons-nous pas, hein? Ça va venir. Alors, donc, à Cana, qu'est-ce que Jésus dit à Cana? Alors, le premier miracle rapporté par l'évangéliste Jean, il nous dit, alors, Jean, chapitre 2, trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » Très respectueux, ce terme. « Mon heure n'est pas encore venue. » Hein, c'est une précision. Pensez-vous que Marie connaissait ce langage-là? Hein? Je ne pense pas, moi. Quelle heure? Que là, qui n'est pas encore venu. Alors, puis là, il va réexpliquer encore. Alors, sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Vous savez, c'était toute la cérémonie avant d'offrir des sacrifices à l'Éternel Dieu, trois fois saint. Il fallait se purifier, il fallait que les sacrificateurs se purifient dans ces bassins d'eau avant de se présenter devant Dieu. Il y avait toute une cérémonie qui était là. Hein? On ne se présentait pas n'importe comment devant Dieu, là. Alors, il fallait donc se purifier, se laver. Et Jésus a dit, « Bien, remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent, et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne savait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appelait l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon. » Après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut Cana en Galilée, le premier des miracles, premier signe que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et ses disciples crurent en lui. Ça l'a fait un pas de plus dans la vie des disciples. Ils ont vu le panneau de signalisation, ils ont dit, hey, on s'approche. On est encore un pas de plus, là. Et crurent en Jésus en voyant ce signe. On est sur le bon chemin, hein? On est sur le bon chemin, là. C'est lui, c'est Jésus. Ah! Jésus aimait de la qualité de la vie. C'est ce que ça nous représente ici. Imaginez, les noces, ça nous parle de la joie, ça nous parle des festins, ça nous parle des réunions de famille, des rencontres qu'on peut avoir lieu, hein, et tout ça. Mais il y avait ce manque qui est arrivé à un moment donné, un besoin de réjouissance. Hein. Jésus aime qu'on se réjouisse. Jésus aime la joie. Savez-vous que c'est de lui que ça vient, la joie? La joie que tu as, là. Je ne sais pas dans quel état que tu es présentement. Je ne sais pas si tu as le goût de sourire, puis même la joie ou le goût de vivre. C'est lourd, hein, la vie aujourd'hui? Moi, je visite les gens à l'hôpital. J'en visite régulièrement. Ils n'ont même pas la force de dire quoi que ce soit, même de lire. J'ai des chrétiens qui vont là, qui disent, « Monsieur Joly, j'emmène ma Bible, je vais la lire. » Je visite quelques jours après. « Avez-vous ouvert la Bible? » Je n'ai même pas la force de lire. À peine de prier. La lourdeur qui s'installe dans une vie. Le Seigneur veut alléger ton fardeau. Il veut te donner de la joie à travers ce que tu vis, à travers les besoins, à travers des manquements. Le vin vint à manquer. Oui, nos ressources viennent à manquer. Et surtout, la joie vient à manquer. dans l'être humain. Il y a toutes sortes de problèmes, de difficultés. Comment je vais payer en fin du mois? Là, tout augmente. Encore l'inflation, encore l'épicerie, encore les loyers, encore les coûts. Ça coûte cher une vie. Comment je vais m'en sortir? Comment voulez-vous vivre de la joie à travers tout ça, toutes ces nouvelles? La guerre qui tout s'installe pour justement l'apocalypse, hein, pour voir que les choses sont de mal en pis. Hein? On est loin de s'améliorer ici, là. Mais qui va nous apporter de la joie à travers toutes ces peines, cette lourdeur, ces fardeaux? Le Seigneur a dit le vin nouveau. L'avez-vous bu? C'est qui ce vin nouveau? Hein? Avez-vous remarqué les vieilles outres, hein? Les vieilles coutumes, les vieilles traditions, l'Ancien Testament? C'est ça qu'ils observaient, eux autres. Le Seigneur a dit, garde, moi j'ai tout accompli ça, là. Maintenant, la joie, c'est de me connaître. C'est de me servir, c'est de m'obéir. Les disciples qui ont reconnu, ils ont fait un pas de plus, ils ont dit, ben c'est lui. On doit avoir confiance en lui, hein? Un petit groupe. Puis avez-vous remarqué ce qu'il fait avec Marie? Marie dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? L'heure n'est pas encore venue. Mais c'est quoi l'heure? C'est quelle heure? Mais c'est l'heure du Père. Quand on voit dans l'Évangile de Jean, c'est la volonté du Père. Il est venu accomplir, se nourrir et accomplir pleinement la volonté du Père, qui est le salut des âmes. C'était l'heure. Maintenant, il va dire un peu plus loin, dans Jean 7, tout ça, il va dire, votre heure n'est pas encore venue à ses frères, à ses membres de la famille qui ne croyaient pas en lui. Puis plus tard, il va dire à ses disciples, l'heure est maintenant venue. Mais quelle est cette heure venue? On pourra regarder tous les textes, mais le temps passe tellement vite qu'on n'aura pas le temps. Mais on va vous dire quelle heure qu'elle est. C'est l'heure que le Seigneur est venu sur la terre pour accomplir la mission que le Père lui a confiée. Les âmes. Dans Jean 6, le Père confie les âmes à Jésus. Et Jésus a dit, je ne perdrai aucune de ces âmes que tu m'as confiées. Aucune. Vous êtes entre bonnes mains. Hein? Entre bonnes mains. Sécurité. Sécurité éternelle. Sécurité éternelle. Le Seigneur a dit, alors ça c'est l'heure. Alors oui, une petite distance avec Marie pour accomplir pleinement ces 3 ans qu'il va consacrer temps plein, full time, pour présenter qui il est et parler en faisant ces signes-là, puis dire maintenant, voici le chemin, la vérité, la vie. J'ouvre le chemin afin que vous puissiez connaître et entrer dans la présence de mon Père céleste. Et puis il va dire dans Jean 17, Père, je te loue, hein? Te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, hein, que là où je serai, ceux que tu m'as donnés seront là aussi avec nous. Hein. Former cette unité, ce corps de Christ qui sera avec lui. Je vais un peu vite, un peu dans les détails, mais c'était ça, les noces de Cana, c'est pour vous dire, regardez, cessez de regarder ce que vous faisiez autrefois, puis acceptez par la foi ce que je vous offre aujourd'hui. Cette joie de découvrir qui est Dieu. Hein, Philippe va dire, montre-nous le Père. Il va dire, ouais, fait un bout de temps que je suis avec toi, tu aurais dû le connaître. Hein? Tu aurais dû le connaître, le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me connaît connaît aussi le Père. On est de la même nature. Hein? Je suis ce Dieu incarné, Dieu qui s'est fait chair, qui m'a habité parmi les humains, afin de me révéler à vous, faire connaître à vous. C'est ça notre joie. Votre joie est là. Oui, oui, ça va mal dans le monde, mais votre joie est là. Oui, oui, ça va mal dans ta vie, mais votre joie est là. À travers la maladie, à travers ce qu'on peut vivre. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes compagnons d'œuvre. Ils sont partis. Ils sont partis là-haut. Hein? C'était des frères dans la foi avec qui j'œuvrais dans le champ de la moisson, avec qui je faisais des émissions, de l'animation à la radio, à la télé. Ils ne sont plus là. Je regarde des photos, je suis le seul qui me reste sa photo. Je dis à ma femme, regarde, je suis le dernier. Peut-être le premier aussi, hein? À partir le prochain. Hein? Mais c'est ça l'histoire aujourd'hui. Ah oui, on a de la peine, on voit tout ça se passer. Mais heureusement que Jésus-Christ est là dans notre cœur, dans ta vie. Est-il là? Est-il présent? Alors, c'est lui la source de joie. Deuxième, c'était à Capernaum, pas tellement loin, dans Jean 4, 46. On va faire ce qu'on peut faire aujourd'hui, hein? On va s'encourager, on va s'édifier. Alors, Jésus, imagine Dieu présent au milieu de cette population qui était là aux noces de Cana, qualité supérieure, pleinement satisfaisante, cette présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus partage avec les siens ses sentiments, cette relation les sanctifie, les met à part, un esprit de joie, une exaltation. Alors, il sympathise avec ces gens, il est le maître de la qualité de vie. Mais deuxième aspect, alors dans Jean 4, verset 46, « Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin, son premier miracle. » Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Ce n'est pas suffisant. Il avait beau faire des signes, les gens restaient incrédules. Alors, verset 49, l'officier du roi dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Il crut, il s'en alla faire un autre bout de chemin. Hein? Comme il descendait déjà, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportaient cette nouvelle, « Ton enfant vit !» Il leur demanda, « Quelle heure ? Quelle heure ?» Il s'était trouvé mieux, il lui dit, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit !» Et il crut. Lui et toute sa maison. Jésus fait encore ce second miracle, donc c'est le deuxième miracle rapporté par l'évangéliste Jean en Judée, en Galilée. Avez-vous remarqué que la présence physique de Jésus n'était pas nécessaire pour ce miracle? Il le fait à distance. La foi en la parole de Jésus qui a activé la puissance de Jésus. Le texte nous dit tout simplement qu'il crut en la parole de Jésus. Il a cru et la puissance agissante a guéri cet enfant. Croire et vivre. C'est l'évangile de Jean, ça. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, que vous ayez la vie en son nom. Ce que Jésus peut faire lorsqu'il y a l'élément de la foi, hein? Lorsqu'il y a cette foi en Jésus-Christ. La foi regarde celui qui parle et l'honore par l'obéissance. Il a cru la parole de Jésus et il s'en est allé. Et puis là, les serviteurs ont couru et ont dit, « Ton fils est guéri, guéri. » Il a fait un bout de chemin, hein? Bon, il s'est approché et Jésus s'est manifesté. Vous savez, comme l'officier, il nous faut agir sur la base de la parole de Dieu pour recevoir ses bénédictions. Dieu est prêt à bénir son peuple. Dieu est prêt à bénir ses enfants. Dieu est prêt à bénir son Église. Mais est-ce que nous croyons vraiment ce qui est écrit? Est-ce qu'on est prêt à faire le pas d'obéissance, de foi, comme cet homme qui est allé, il s'est rendu à la maison pour apprendre que son fils était guéri, à la même heure, là où le Seigneur avait prononcé la bénédiction. « Va, ton fils est guéri. » La foi. C'est la foi qu'on exprime. La prière est le moyen de rendre actif la parole et la puissance de Dieu. Cet homme a demandé à Jésus de faire quelque chose. Foi et obéissance vont de pair. Si tu dis que tu as la foi en Jésus-Christ, cela devrait se révéler, se refléter, dis-je, dans ta vie, dans ton comportement. Tu crois en Jésus-Christ? Moi, j'ai trois autres bureaux en ville à Saint-Georges. Oui, j'ai un bureau au bâtiment d'église, mais j'ai trois autres bureaux en ville qui s'appellent Tim. On y sert du café. Alors, souvent, dépendamment où sont les gens qui veulent me rencontrer, ben, tu vas à tel bureau dans l'ouest, l'autre côté de la rivière ou dans l'est. Ou, vous avez plusieurs bureaux, M. Joly? Je dis oui. Alors, les gens sont habitués. Ça fait bientôt 10 ans que je suis à Saint-Georges. Il me voit y arriver avec ça sous le bras. Hein? Puis ils savent que je suis aumônier, puis pasteur, puis ils connaissent mes va-et-vient un peu. Fait que je rentre chez un de ces teams. Ils l'ont dit d'avoir un Timothée avec nous. Hein? Alors donc, je rentre chez Tim. Et là, j'ai même pas le temps de commander mon café. Il y a une dame qui lève la main et dit, « Vous viendrez à ma table? » Fait que je commande mon café, je m'en vais à la table de cette dame. Je dis, « On se connaît? » « Non. Mais je vous vois souvent venir ici avec votre Bible sous le bras. » Puis elle dit, « Je sais que vous êtes un pasteur, vous. » Puis elle dit, « Je vous entends parler avec des gens ici dans les coins du team. Hein? » Elle dit, « Avez-vous un peu de temps? » Ben, j'ai dit, « Oui, mon prochain rendez-vous, la prochaine rencontre n'arrivera pas immédiatement. J'ai voulu prendre un peu de temps de repos puis prendre un café. Hein? Mais je vais le prendre avec vous, madame. » Et là, elle se met à me raconter une vie horrible. Des abus dans son enfance, des abus de son mari, des abus. Je ne la connais pas, là. On se rencontre pour la première fois, puis elle me confie toute sa vie. Une dame qui souffre et qui souffre. Ben, j'ai dit, vous connaissez mon message, hein? Vous connaissez mes valeurs. Moi, c'est l'Évangile. Je vais vous partager de l'Évangile. Puis là, je me mets à décrire à la personne de Jésus-Christ ses souffrances pour l'accompagner dans ses douleurs, lui montrer que Dieu l'accompagne dans ses douleurs, dans ses souffrances. Comment est-ce que Jésus a souffert, lui aussi, dans ces moments très difficiles de vie, à partir du Jardin d'Éden, et puis comment il a été abandonné, et comment est-ce qu'on lui a fait subir des atrocités à lui aussi. Et là, elle me dit, arrêtez, Monsieur Joly, plus que vous me parlez de Jésus de cette façon-là, je deviens anxieuse. J'ai dit, bon, Seigneur, comment tu veux que j'entreprenne? Partage l'Évangile. Alors, je me suis mis à parler de Jésus, mais de l'Évangile de Jean, de ses guérisons, de comment est-ce qu'il a fait du bien, apporter le message, et puis de la consolation, de réconfort, puis à l'écouter. Moi, je l'ai écouté un bout de temps. Puis elle m'a écouté pendant l'autre bout de temps. Et après ça, ben, j'avais mon rendez-vous, je devais aller à l'hôpital, parce que c'est sur le chemin de l'hôpital, ce fameux team où il se trouve. Fait que j'arrive plus souvent que les autres teams. Et là, j'attendais quelqu'un venir me chercher pour aller à l'hôpital. Et puis à la sortie, j'étais assis dehors, il faisait tellement beau journée-là. Elle passe devant moi, puis elle dit, « Monsieur Joly, merci beaucoup. » Je ne l'ai pas revu depuis, mais... Prions pour cette dame du team dont je ne connais même pas son nom. Madame du team, OK? Mais c'est comme ça. Le Seigneur est grand, c'est. Il atteint les gens. Il veut les atteindre, les gens. Alors, tout comme ici, là, hein, se présenter là, alors à Capernaum, ben, c'était ça. La foi, Jésus continue à nous parler dans sa parole. Est-ce que j'y crois suffisamment pour y obéir? Et récolter les effets de sa puissance, les fruits de sa promesse, et de vivre pleinement de sa présence dans notre cœur. Il n'y a pas juste la guérison du corps. Au contraire, ça, c'est secondaire, parce que la personne va mourir. Hein? Lazare, il est mort une deuxième fois, lui. Il n'était pas libéré de la mort, lui. Mais c'était un miracle pour manifester la puissance, comme quoi que Jésus était Dieu. Il y avait la puissance sur la création, sur la nature. Mais la guérison de l'âme le tue. Est-ce que le Seigneur est en train de penser tes plaies, tes douleurs intérieures, tout ce qui se passe quand tu es tout seul, allongé quelque part sur ton lit, dit, « Voudrais pas partir avec ça, hein, dans l'éternité. » Récolter les effets, hein. Dans Jean 20, 29, je vous fais juste vous le citer, là, ceux qui prennent des notes, Jean 20, 29. « Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru, » réponse de Dieu à Thomas. « La clé de la puissance, croyez à sa parole et voyez son efficacité. » Et vous verrez à Bethesda comment est-ce que Jésus est le maître du temps. Dans Jean 5, les versets 5 à 9, troisième signe, comme quoi que le Seigneur permet qu'on fasse un pas de plus avec lui. Dans Jean 5, les versets 5 à 9, alors vous savez, c'est ce paralytique. Alors dans Jean 5, 5 à 9, il dit, Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il dit, « Veux-tu être guéri? Que veux-tu que je fasse? Quelle est ta demande? » Hey, le Seigneur est là, il dit, « Demandez en mon nom. Demandez. » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, parce que pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Alors, il y avait juste une courte période pour être guéri, puis ici, il ne passait pas dans cette période-là. Trop tard. Attends à la prochaine. C'est comme à l'hôpital aujourd'hui. Ma fille est préposée, puis arrive pas là trop tard, va être trop tard. Hein? Parce que ça retarde beaucoup là-bas pour les soins, puis ainsi de suite. Hein? C'est pas facile ce qu'il vit présentement. Alors donc, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit, marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Jésus a guéri le paralytique qui avait 38 ans. 38 ans de vie de cette façon. Il a changé carrément la vie de cet homme-là. Carrément de la vie de cet être humain. Jésus est à l'œuvre, et particulièrement au moment opportun pour faire du bien à son peuple dans le besoin. Quel est le besoin de l'Église ici à Sainte-Marie? Quel est le besoin du corps de Christ? Quel est ton besoin à toi de façon plus personnelle? Le Seigneur dit, demande. Jésus est Dieu. Depuis le repos de la création, il a toujours à l'œuvre pour prendre soin, venir en aide à sa créature. Ses créatures ont trouvé le vrai repos. Imaginez cet homme qui trouve le vrai repos en Jésus-Christ. Que de choses qui devaient passer dans sa tête pendant ses 38 ans. Il avait le temps de penser, lui. Il ne pouvait rien faire d'autre que penser, puis que de réfléchir à la vie. C'est tout ce qu'il pouvait faire, là, assis sur son lit, ou couché sur son lit. Étendu là. Que de choses qui devaient mijoter là-dedans. C'est quoi la vie? Quel sens a ma vie? Pourquoi j'existe? Pourquoi suis-je là? À quoi ça sert d'être ici? 38 ans, je coûte cher à la société, je ne sais pas, donc peut-être aujourd'hui on dirait ça. À quoi je suis utile à la société? Qu'est-ce que je suis en train de réaliser? Il a contribué à la gloire du Fils de Dieu! Il a contribué à la gloire du Fils de Dieu dans l'état dans lequel il était. Dieu s'en est servi comme témoin de sa puissance. Et combien de gens j'ai vu qui disent, « À quoi je sers aujourd'hui? Je suis nul, je suis un zéro, je suis un deux de pique. » Mais ils sont devenus des as par la grâce de Jésus-Christ. Leur vie est devenue quelqu'un, quelqu'une, parce que Jésus est entré dans leur cœur par la foi. Ils sont devenus des fils de Dieu, des enfants de Dieu par la foi. Imaginez cet homme-là pendant 38 ans, les gens devaient dire, « Encore lui, ben, je leur donne 30 sous. » Et là, c'est lui là, qui marche et qui manifeste la puissance, la gloire de Dieu. Qu'en est-il de ta vie? Est-ce qu'elle s'est levée pour manifester la puissance puis la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'elle manifeste, ta vie, aujourd'hui? Que manifeste cette vie, la tienne? Tu l'as consacrée? À qui? Pourquoi? Comment occupes-tu ton temps, ta vie? Le miracle. Le miracle, c'est la conclusion. On a vu trois. On a vu trois. Mais si tu as remarqué, trois importants. Croire que Jésus est Dieu, l'auteur de la vie, de la véritable vie. Il est le maître de l'espace et du temps. Il est le Tout-Puissant. Il est le maître de la qualité de ta vie et de la quantité de ta vie aussi. La vie abondante, il la promet. Et que de fois j'ai cité Jean 10:10 qui dit quoi? Je suis venu pour donner la vie à mes brebis. Une vie en abondance, la vraie vie, celle qui vaut la peine d'être vécue. Ça, c'est tout éphémère, ça, c'est passager. Tout ça, là, ça va être détruit. Tout ça, ça va être parti en fumée, je ne sais pas comment. Mais le Seigneur a dit quoi? Lui, il va venir restaurer, rétablir l'ordre. Et ça commence dans la vie des croyants. Amen. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voici quelques exemples de personnes qui ont cru en toi et qui ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce que tu réserves pour chacun d'entre nous, mais nous savons une chose, c'est que tu as pris notre vie en main, nous te l'avons confiée. Et s'il y a une personne qui ne te l'a pas encore confiée, ou qui n'a pas encore cru, comme l'évangile de Jean, crois au Seigneur Jésus, et tu auras en ta possession la véritable vie qui mène jusque dans l'éternité en présence de Dieu. Seigneur, manifeste ta gloire parmi ceux que tu as rachetés, ceux que tu t'es acquis un grand prix. Qu'ils se tournent vers toi, qu'ils aient confiance en toi, qu'ils gardent cette foi, Seigneur, jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce que tu viendras nous chercher. On te le demande au nom de Jésus, nous disons Amen.